Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ces auditeurs et auditrices, soit le programme commencera par le journal, suivi le rendez-vous de presse. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésien. Bon alors, on va écouter maintenant les journaux aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère du Tourisme organise le Festival Indonésie Festival. La coopération partielle militaire indo-saharienne est suspendue. Le mars, le roi d'Arabie Saoudite et sa délégation visiteront l'Indonésie. Dirgantara Indonesia Société Anonyme cible le nouvel avion de N245 de volée en 2018. Jakarta va construire le musée d'islam de l'Indonésie. Et enfin, Singapour est le plus grand investisseur indonésien en 2016. Voici le journal complet. Le ministère du Tourisme organise le Festival Indonésie Festival ou Fest in Fest à Jakarta. Le festival a lieu jeudi le 26 janvier jusqu'au dimanche le 29 janvier. Le festival présentait une variété de spectacles, les séminaires, l'exposition de produits culturels, le dialogue, les projections de films, le mini-carnaval et des expositions culinaires. Le Festival Indonésie Festival est un événement pour rassembler les organisateurs du festival pour échanger des expériences et développer la coopération. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, lors de l'ouverture du Festival Indonésie Festival, jeudi le 26 janvier 2017, a déclaré que l'Indonésie était un pays qui a une variété de festivals intéressants. Ce festival est devenu la marque et des principales attractions de chaque région pour attirer les touristes et peut être des conseils stratégiques pour rassembler divers potentiels d'expérience et la coopération en vue d'organiser le festival qui a une valeur économique. Ce Fest in Fest est un forum de festival de Pentahelix. Pentahelix, il devrait y avoir académicien. Car il nous guidera, il devrait y avoir un homme d'affaires, le gouvernement devrait exister, le ministère du Tourisme et le gouvernement, la communauté et les collègues des médias doivent être présents et cet événement devient le calendrier des événements. Notre faiblesse est de ne pas avoir de calendrier des événements. Le ministre Arif Yahya a expliqué qu'en 2017, le ministère du Tourisme a préparé plus de 100 événements du festival qui auront lieu dans les différentes régions du pays. Le chef du comité organisateur du Festival Indonésie Festival, Taufik Razin, dans la même occasion a déclaré que les thèmes qui seront discutés dans ce festival sont un festival de l'archipel, le festival transfrontalier et des festivals de destination. À cette occasion, la préparation de la culture indonésienne de l'Asie dans le cadre des Jeux asiatiques tenus à Jakarta et à Palembang en 2018 a également été discutée. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé que la plupart de la coopération militaire entre l'Indonésie et l'Australie, en particulier l'éducation et la formation militaire, serait suspendue en attendant les résultats de l'enquête dans le cas de harcèlement de Pancasila par les militaires d'Australie. Cette déclaration a été transmise par la ministre des Affaires étrangères après une réunion de travail avec la commission en du Parlement. Le ministre de la Défense, le commandant en chef de TNI, le chef de l'agence de renseignement de l'État BIN dans le bâtiment Nusantara 2 de DPR. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a expliqué que les enquêtes sur le cas de harcèlement de Pancasila seront finalisées par le gouvernement australien à la fin de ce mois. Elle a ajouté que sa partie avait communiqué à nouveau avec l'équipe en Australie et l'ambassadeur d'Indonésie en Australie directement. Le roi Salman mènera des activités bilatérales avec le président Joko Widodo et d'autres fonctionnaires de l'État. Luqman Hakim Saifuddin, le ministre des Affaires religieuses au quartier général de la police Jakarta, a expliqué, selon le projet, le 1er jusqu'au 9 mars, il y a plusieurs ordres du jour de la réunion. Les ordres du jour, cette fois, ont été finalisés avec le ministère des Affaires étrangères. Il a expliqué que le roi Salman apporterait une grande délégation. La réunion bilatérale entre le président Joko Widodo et le roi Salman en mars prochain n'est pas pour la première fois à l'ère du président Joko Widodo. En septembre 2015, Joko Widodo a rencontré le roi Salman en Arabie Saoudite et a fait l'approche pour que le quota de Hajj soit augmenté. Le nouvel avion produit par Dirgantara Indonesia Société Anonyme, à savoir N245, fixe des objectifs de commencer à voler en 2018. Le directeur de Dirgantara Indonesia Société Anonyme, Budi Santoso, au ministère des Entreprises d'État Jakarta, a déclaré qu'actuellement il est encore dans la phase de conception. Budi Santoso a dit « L'objectif de fabrication de l'avion pourrait être réalisé en 2018 parce que la fabrication de cet avion n'est pas aussi lourde que l'avion N219 actuellement. » Il a dit qu'il procédait la certification aidée par la société de fabrication d'avions basée à Toulouse en France à travers de la coopération pour accélérer le processus de certification de l'avion sous le type d'ATR-72. Il a dit que Airbus soutenait ce projet parce qu'il complétera la série précédente, à savoir CN235 et CN295. Bien que le processus de certification soit aidé par Airbus, Budi Santoso a confirmé que les idées et la conception étaient pour du résultat de travail de la nation dans le pays. Il a déclaré que N245 est un petit avion pour les zones commerciales. Si cet avion est développé, il pourrait avoir une capacité de 30 à 50 passagers en conformité avec le développement de la technologie qui avait initialement la capacité de 10 à 12 passagers. Le Centre islamique de Jakarta, JIC, en coopération avec le Musée d'art islamique du Louvre en France, mettra en place le Musée islamique de Jakarta comme un symbole de la civilisation islamique à Jakarta. C'est ce qu'a affirmé le chef du Centre de l'étude et du développement de l'islam de JIC, Kyai Haji Sodri, récemment à Jakarta. Il a dit que ce musée serait une image de l'évolution de la civilisation islamique à Jakarta et pourrait devenir aussi une image de la progression de l'islam en Indonésie. Il a décidé de coopérer avec le Musée d'art islamique du Louvre en France car il a de l'expérience dans la bonne gouvernance de ce musée. Ce musée est prévu d'être construit et d'être achevé en 2017 dans la zone de JIC. Pendant ce temps, le responsable du développement de la mise en œuvre de la prospérité sociale dans le service social de Jakarta, Heri Suartono, espère que les bons résultats de cette coopération, car elle implique un gestionnaire expérimenté. Singapour est comme les investisseurs étrangers qui investissent le plus grand capital en Indonésie au cours de la période de janvier-décembre 2016. Le Conseil de coordination des investissements BKPM a noté, tout au long de 2016, ce pays voisin a investi 9,2 milliards de dollars américains. Le chef de BKPM, Thomas Lembong, dans une conférence de presse mercredi à Jakarta, a expliqué, après Singapour, c'est le Japon qui a placé le deuxième rang comme le plus grand investisseur étranger en Indonésie. en 2016 avec l'investissement de 5,4 milliards de dollars, suivi par la Chine avec 2,7 milliards de dollars américains, Hong Kong avec 2,2 milliards de dollars américains et les Pays-Bas avec 1,5 milliard de dollars américains. Thomas Lembong a ajouté les secteurs d'affaires qui sont le choix préféré des investisseurs étrangers sont entre autres l'industrie des métaux, les produits métalliques, des machines et de l'électronique, l'industrie chimique et pharmaceutique, l'industrie du papier et d'impression ainsi que les mines. Chers éditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers éditeurs, divers événements qui se sont passés pendant une semaine ont été écrits par les quotidiens apparus à Jakarta. Nous commençons avec le quotidien Kompas qui a écrit la mesure ferme pour le juge de la Cour constitutionnelle. La carrière politique du juge de la Cour constitutionnelle, Patrialis Akbar, finira dans les mains de la Commission d'éradication de la corruption ou KPK. Les mesures fermes sont nécessitées. Pas beaucoup de gens qui ont senti les trois branches du pouvoir en Indonésie. Patrialis, avant d'être un juge de la Cour constitutionnelle, il avait été un avocat, puis en tant que membre du Parlement du Parti Mandat National de la période 1999-2009, qui a pour tâche d'élaborer des lois, notamment la loi sur la corruption et le ministère de la Justice et des droits de l'homme, du 20 octobre 2009 au 19 octobre 2011. La position spéciale des juges de la Constitution spéciale, parce que la loi de la Cour constitutionnelle place le juge de MK comme un homme d'État qui a maîtrisé la Constitution et constitutionnelle. C'est le président Susilo Bambang Yudhoyono qui a proposé en 2013 Patrialis Akbar en tant que juge de la Cour constitutionnelle avec Maria Farkida Indrawati, après que Patrialis Akbar est remplacé par Amir Syamsuddin en tant que ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Patrialis n'est pas le premier juge arrêté par KPK. Auparavant, le président de MK, Akhil Mukhtar, qui avait été un avocat et membre du Parlement du Parti Golkar, avait été arrêté par KPK. Par conséquent, selon le quotidien Kompas, la mesure ferme et sévère doit être faite. Le conseil d'éthique de MK doit prendre des mesures immédiates sur Patrialis Akbar afin de fournir un effet dissuasif. Sinon, MK sera une institution qui n'est pas crue par le peuple. Le quotidien Média Indonésia écrit dans son éditorial mercredi le 25 janvier « Répandre la tolérance, prévenir les crises ». Garder et prendre soin de l'Indonésie est un devoir sublime de tous les citoyens, en particulier les élites du leadership politique et religieux. Les élites s'en relâchent pour maintenir le pays, pour être éloignées des divers risques de désintégration. Média Indonésia a écrit « Si les facteurs de désintégration sont si mal gérés, pourraient perturber l'économie nationale, même la division du pays. » Média Indonésia a écrit que l'Indonésie a besoin d'un leader qui unit et ne crée pas de troubles. Cette nation a aussi besoin de l'aide de leadership politique et religieux, donc ces conseils peuvent créer la tolérance. Si répandre la tolérance, les élites obtiennent l'intégrité et l'unité de la nation. Chers auditeurs, c'était la revue de presse de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, chers auditrices du monde entier, voici notre programme, l'histoire d'aujourd'hui, ce soir, de la Voix d'Indonésie, de l'édition le 28 janvier. On va commencer le 28 janvier 1915, première offensive de Suez. Les combats de la Première Guerre mondiale s'installent sur le front égyptien. Le 28 janvier 1915, la 4e armée ottomane, menée par Jemal Pasha, lance l'assaut sur les troupes britanniques établies en Égypte. Leur objectif est de prendre le contrôle du stratégique canal de Suez. Les Britanniques du major général Sir John Maxwell repoussent cette offensive et obligent les forces ottomanes à se replier le 3 février après leur avoir infligé de lourdes pertes humaines. En France, le 28 janvier 1915, coup d'état du président portugais Arriaga. En 1911, Manuel de Arriaga devient le premier président élu à la tête de la République portugaise, figure emblématique du Parti républicain portugais. Il ne parvient pas à réunifier son parti déchiré en deux branches. Le 28 janvier 1915, il force le gouvernement, pourtant républicain, à démissionner et installe indépendant José Joaquim Pereira Pimenta de Castro comme premier ministre. Le 14 mai de la même année, une insurrection militaire soutenue par les républicains aboutit à la démission des deux hommes. En France, le 28 janvier 1918, création de l'armée rouge. Après les révolutions rouges de 1917, les bolcheviques souhaitent mettre en place une armée afin de combattre leurs opposants. Le 28 janvier 1918, une décision du Conseil des commissaires du peuple transforme la garde rouge en armée rouge. Il avait pour objectif de combattre l'armée blanche, composée de la France, du Royaume-Uni, de la Tchécoslovaquie, des États-Unis et de l'Empire du Japon. Elle participera notamment à la guerre civile rouge, à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre d'Afghanistan. Entre 1928 et 1986, l'explosion de la navette Challenger. À 11h38, la navette spatiale américaine Challenger explose 1 minute 30 après son décollage. Les spectateurs présents à Cap Canaveral ainsi que des millions de téléspectateurs assistent en direct à la catastrophe. Les 7 astronautes présents à bord de Challenger, dont 2 femmes prises dans l'explosion. La rupture d'un joint de l'un des propulseurs d'appoint est l'origine de l'accident selon l'enquête de la NASA. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire, l'édition du 28 janvier. Nous allons vous raconter demain avec les autres événements historiques intéressants. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Ces auditeurs et auditrices, on se rencontre encore dans la rubrique La mise au point. Dans cette édition, on prend le thème Myanmar, étudier la résolution des conflits à Maluku. Les représentants du gouvernement, du ministre de l'Information du Myanmar, au Pemint et le vice-ministre de l'Intérieur avec leur entourage ont effectué une visite au bureau du gouverneur des Moluques à Ambon jeudi le 26 janvier 2017. Parmi les délégués, il y avait aussi des députés et des personnalités publiques de Rakhine. Le président de la Chambre du commerce de Rakhine est également venu. Après avoir mené la préparation de la réunion de Tanwir Mohammadia au bureau gouvernemental des Molouks jeudi matin, le gouverneur de cette province, Saïd Assagaf, à l'agence de presse Antara, a déclaré que la visite par le gouvernement du Myanmar avait pour d'apprendre la résolution des conflits horizontaux qui avaient eu lieu il y a plusieurs années. Saïd Assagaf a expliqué que l'arrivée des représentants du gouvernement du Myanmar au Moluques avait aussi pour but d'apprendre le processus de l'harmonie interreligieuse s'est construit dans la région connue sous le nom des Mille Îles. Selon le gouverneur Saïd Assagaf, les Moluques avaient des conflits prolongés qui avaient affecté l'humanité. Maintenant, les Moluques sont devenus une zone harmonique. Même le ministre des Affaires religieuses au a mis les Moluques comme la troisième province ayant la meilleure harmonie en Indonésie. Selon Saïd Assagaf, les Moluques devient un exemple d'harmonie religieuse et a fait cette région comme un laboratoire d'harmonie interreligieuse en Indonésie, même dans le monde. L'arrivée des représentants du gouvernement de Myanmar aux Moluques était soutenue par la coopération de l'institution Tifa Damai Maluku et de Harvard Kennedy School Myanmar. En citant une communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, le ministre de l'Information du Myanmar, Upeminte, a déclaré
qu'il est d'accord avec les points de vue des représentants de Harvard Kennedy School de la démocratie, qui avait exprimé que l'Indonésie était une salle de classe parfaite pour Myanmar, apprendre la démocratisation et la réconciliation. Dans une déclaration écrite, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a mentionné que ce programme a fait également partie du soutien de l'Indonésie pour le développement inclusif au Myanmar. L'Indonésie a précédemment fourni une aide au développement des deux écoles à Rakhine qui sert à tous les citoyens du Myanmar. Le gouvernement a également fourni une assistance de 10 conteneurs de nourriture et de vêtements qui sont lancés par le président Joko Widodo. Voilà la mise au point d'aujourd'hui.
Le ministère du Tourisme organise le Festival Indonésie Festival ou Fest in Fest à Jakarta. Le festival a lieu jeudi le 26 janvier jusqu'au dimanche le 29 janvier. Le festival présentait une variété de spectacles, les séminaires, l'exposition de produits culturels, le dialogue, les projections de films, le mini-carnaval et des expositions culinaires. Le Festival Indonésie Festival est un événement pour rassembler les organisateurs du festival pour échanger des expériences et développer la coopération. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, lors de l'ouverture du Festival Indonésie Festival, jeudi le 26 janvier 2017, a déclaré que l'Indonésie était un pays qui a une variété de festivals intéressants. Ce festival est devenu la marque et des principales attractions de chaque région pour attirer les touristes et peut être des conseils stratégiques pour rassembler divers potentiels d'expérience et la coopération en vue d'organiser le festival qui a une valeur économique.
Fest in Fest ini jadikanlah sebagai.
Ce Fest in Fest est un forum de festival de Pentahelix. Pentahelix, il devrait y avoir académicien, car il nous guidera, il devrait y avoir un homme d'affaires, le gouvernement devrait exister, le ministère du Tourisme et le gouvernement, la communauté et les collègues des médias doivent être présents et cet événement devient le calendrier des événements. Notre faiblesse est de ne pas avoir de calendrier des événements. Le ministre Arif Yahya a expliqué qu'en 2017, le ministère du Tourisme a préparé plus de 100 événements du festival qui auront lieu dans les différentes régions du pays. Le chef du comité organisateur du Festival Indonésie Festival, Taufik Razin, dans la même occasion a déclaré que les thèmes qui seront discutés dans ce festival sont un festival de l'archipel, le festival transfrontalier et des festivals de destination. À cette occasion, la préparation de la culture indonésienne de l'Asie dans le cadre des Jeux asiatiques tenus à Jakarta et à Palembang en 2018 a également été discutée. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé que la plupart de la coopération militaire entre l'Indonésie et l'Australie, en particulier l'éducation et la formation militaire, serait suspendue en attendant les résultats de l'enquête dans le cas de harcèlement de Pancasila par les militaires d'Australie. Cette déclaration a été transmise par la ministre des Affaires étrangères après une réunion de travail avec la commission en du Parlement, le ministre de la Défense, le commandant en chef de TNI, le chef de l'agence de renseignement de l'État BIN dans le bâtiment Nusantara 2 de DPR. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a expliqué que les enquêtes sur le cas de harcèlement de Pancasila seront finalisées par le gouvernement australien à la fin de ce mois. Elle a ajouté que sa partie avait communiqué à nouveau avec l'équipe en Australie et l'ambassadeur d'Indonésie en Australie directement. Le roi Salman mènera des activités bilatérales avec le président Joko Widodo et d'autres fonctionnaires de l'État. Lukman Hakim Saifuddin, le ministre des Affaires religieuses au quartier général de la police Jakarta a expliqué, selon le projet, le 1er jusqu'au 9 mars, il y a plusieurs ordres du jour de la réunion. Les ordres du jour, cette fois, ont été finalisés avec le ministère des Affaires étrangères. Il a expliqué que le roi Salman apporterait une grande délégation. La réunion bilatérale entre le président Joko Widodo et le roi Salman en mars prochain n'est pas pour la première fois à l'ère du président Joko Widodo. En septembre 2015, Joko Widodo a rencontré le roi Salman en Arabie Saoudite et a fait l'approche pour que le quota de Haji soit augmenté. Le nouvel avion produit par Dirgantara Indonesia Societonim, à savoir N-235, fixe des objectifs de commencer à voler en 2018. Le directeur de Dirgantara Indonesia Société Anonyme, Budi Santoso, au ministère des Entreprises d'État Jakarta, a déclaré qu'actuellement, il est encore dans la phase de conception. Budi Santoso a dit l'objectif de fabrication de l'avion pourrait être réalisé en 2018 parce que la fabrication de cet avion n'est pas aussi lourde que l'avion N-219 actuellement. Il a dit qu'il procédait la certification aidée par la société de fabrication d'avions basée à Toulouse en France à travers de la coopération pour accélérer le processus de certification de l'avion sous le type d'ATR-72. Il a dit que Airbus soutenait ce projet parce qu'il complétera la série précédente, à savoir CN-235 et CN-295. Bien que le processus de certification soit aidé par Airbus, Budi Santoso a confirmé que les idées et la conception étaient pour du résultat de travail de la nation dans le pays. Il a déclaré que N-245 est un petit avion pour les zones commerciales. Si cet avion est développé, pourrait avoir une capacité de 30 à 50 passagers en conformité avec le développement de la technologie qui avait initialement la capacité de 10 à 12 passagers. Le Centre islamique de Jakarta, JIC, en coopération avec le Musée d'art islamique du Louvre en France, mettra en place le Musée islamique de Jakarta comme un symbole de la civilisation islamique à Jakarta. C'est ce qu'a affirmé le chef du Centre de l'étude et du développement de l'islam de JIC, Kyai Haji Chaudhry, récemment à Jakarta. Il a dit que ce musée serait une image de l'évolution de la civilisation islamique à Jakarta et pourrait devenir aussi une image de la progression de l'islam en Indonésie. Il a décidé de coopérer avec le musée d'art islamique du Louvre en France car il a de l'expérience dans la bonne gouvernance de musée. Ce musée est prévu d'être construit et d'être achevé en 2017 dans la zone de JIC. Pendant ce temps, le responsable du développement de la mise en œuvre de la prospérité sociale dans le service social de Jakarta, Heri Suartono, espère que les bons résultats de cette coopération, car elle implique un gestionnaire expérimenté. Singapour est comme les investisseurs étrangers qui investissent le plus grand capital en Indonésie au cours de la période de janvier-décembre 2016. Le Conseil de coordination des investissements BKPM a noté, tout au long de 2016, ce pays voisin a investi 9,2 milliards de dollars américains. Le chef de BKPM, Thomas Lembong, dans une conférence de presse mercredi à Jakarta, a expliqué, après Singapour, c'est le Japon qui a placé le deuxième rang comme le plus grand investisseur étranger en Indonésie. En 2016, avec l'investissement de 5,4 milliards de dollars, suivi par la Chine avec 2,7 milliards de dollars américains, Hong Kong avec 2,2 milliards de dollars américains et les Pays-Bas avec 1,5 milliards de dollars américains. Thomas Lembong a ajouté les secteurs d'affaires qui sont le choix préféré des investisseurs étrangers sont entre autres l'industrie des métaux, les produits métalliques, des machines et de l'électronique, l'industrie chimique et pharmaceutique, l'industrie de papier et d'impression ainsi que les mines.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Ce sont toujours des affaires fraîches qu'on vous propose à la voix de l'Indonésie. Passons maintenant. Le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs et auditrices, nous vous revenons encore dans la rubrique magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons de voyager aux Java centrales pour goûter une nourriture qui s'appelle Chanil. Donc, restez toujours avec nous à RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Autre part en découverte, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voi.co.id. Ces auditeurs, Chanil est l'un des aliments traditionnels qui est célèbre dans le domaine de Java, en particulier le chant de Java.
On le trouve habituellement dans de nombreux marchés, de sorte que la majorité des gens locaux l'appellent Jajanan Pasar ou les snacks traditionnels de bon marché. Il est sucré avec une texture moelleuse et légèrement collante. Il existe de nombreuses formes comme ovale, rond et carré. Cela dépend au goût des fabricants. J'ai mis au passé, le chenil était un aliment alternatif pour les gens sur l'île de Java, car à ce moment-là, il y avait une pénurie de riz dont les gens essayaient de trouver une autre alternative en utilisant le sagou comme l'aliment principal. À cette époque, la communauté a réussi à faire un repas appelé chenil, qui signifie coquette, chentil, qui signifie coquette. Parce que la nourriture est colorée et si tentant comme un repas. Mes amis, vous pouvez trouver le chenil au marché traditionnel et il est relativement bon marché. Les vendeurs de chenil vendent habituellement leurs produits au fanage et ils sont habituellement enveloppés dans les feuilles de bananier, de sorte que l'arôme nous rend plus enclin à manger. Chers auditeurs et auditrices, voilà cette édition du magazine culturel. Donc, le sujet est chenil, repas traditionnel de Java Central. On vous retrouve encore demain avec d'autres sujets aussi intéressants. Au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie. Je suis ravi de vous revoir dans la rubrique L'Indonésie en couleur. Aujourd'hui, samedi le 28 janvier 2017, les Chinois célèbrent le nouvel an chinois, ou plus connu comme Imlek. Juste avant les jours de Nouvel An, vous verrez beaucoup de décorations ayant les couleurs roses et ou jaunes. Savez-vous le sens de ces couleurs? L'Indonésie en couleur de cette édition va parler du sens de ces couleurs. Chers auditeurs, la célébration de la nouvelle année chinoise commence au premier jour du premier mois, Zheng Yu, dans le calendrier chinois et se termine avec le Chap Gome, au 15e jour quand la pleine lune apparaît. Le réveillon du nouvel an chinois est connu comme Shuxi, leur signifie la nuit de la nouvelle année. Lors de cette célébration, les tons de rose et d'or ou jaune commence à animer tous les endroits comme aux centres commerciaux, aux bureaux, aux endroits publics et même au style de vêtements. Ces deux couleurs sont devenues l'identité chinoise de temps en temps et se tiennent encore bon jusqu'au présent. Dans la tradition chinoise, il y a cinq éléments essentiels, à savoir l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre. Les couleurs qui représentent les cinq éléments sont ces quatre éléments, le noir, le rouge, le bleu, le vert et la jaune. Pour les Chinois, la couleur rouge qui symbolise le feu signifie la bonne fortune et la joie dans la nouvelle année. La couleur rouge symbolise également l'incarnation de la passion ardente et flamboyante en accueillant la nouvelle année. Et la couleur rouge qui orne le décor de la maison, les vaisselles et même des vêtements est considérée pour augmenter l'appétit, un sentiment de joie et rend les porteurs des vêtements luminescents. La couleur qui est aussi dominante dans la nouvelle année chinoise est l'or ou jaune. La jaune est considérée comme une couleur centrale dans la distribution de la couleur du peuple chinois. Selon l'ancien proverbe chinois, la jaune génère le yin et le yang. La jaune est le central de toutes les choses, aussi qu'il produit en état neutre la chance. Impression de luxe, gracieuse et majestueuse, également symbolisée par cette couleur. La combinaison de ces deux couleurs a une bonne philosophie et une atmosphère joyeuse, vive et pleine de bonheur. Dans une légende, on a même dit qu'en lanterne rouge avec des lettres d'or avait réussi à repousser les créatures maléfiques sous la forme d'un dragon sauvage appelé Nian. Chers auditeurs, voilà cette édition de l'Indonésie en couleur dont le sujet est le sein de couleur rouge et jaune dans la célébration de la nouvelle année chinoise. On se retrouve encore dans la prochaine édition de l'Indonésie en couleur avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant divertissement avec le magazine musical indonésien qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix d'Indonésie à Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter des musiques indonésiennes. Et cette fois, nous avons sélectionné des chansons kroncong chantées par Mus Mulyadi, un chanteur de kroncong indonésien. Il est né à Surabaya, Java West, le 14 août 1945 et connu comme le roi de kroncong. Quelques chansons qui sont célébrées entre autres Kota Solo, Dinda Bestari, Telemoyo et Jembatan Merah. Ou bien nous allons écouter une chanson de kroncong Kota Solo, en français La Ville de Solo, chantée par Mus Mulyadi. Avant qu'il a commencé sa carrière en tant que musicien, il a été instructeur de la bande Irama Puspita, alors a changé le nom d'Ara Puspita. Il a fondé un groupe de musique Arista Birawa en 1964. En 1965, avec Arista Birawa, il a sorti un album qui a été produit par PT Demita Record. Avec ses trois amis, il a habité à Singapour en 1967. Dans ce pays, il a créé 10 chansons, entre autres Sedetik di Belai Kasih et Jumpa dan Bahagia. En 1969, il a offert ses chansons à Live Recording Jurong. En 1971, Mus Mulyadi et ses trois collègues ont été revenus en Indonésie et enregistré des chansons à Remako, accompagné par le groupe de musique Arianto. Et finalement, il a formé un groupe Favorite Band dirigé par Arianto. Avec le groupe Favorite Band, il a créé des chansons. Ensuite, il a commencé à chanter des chansons pop Kroncong, entre autres Kroncong Dewi Murni. Après avoir tenu un show dans quelques pays tels que les Pays-Bas et aux États-Unis, il est connu comme le roi de Kroncong. Thank you. Mus Mulyadi est également capable de terminer de nouveaux albums de compilation et un album de crunchong et pop Java. Le 18 juillet 2014, avec un certain nombre de musiciens seniors de l'Indonésie, Mus a décidé de tenir un concert commun qui a eu lieu à Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta. Ses amis, on écoute les deux dernières chansons, Linda Bestari et Dewi Murni. Bonne écoute et au revoir.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
memberikan sutra melambai meriah rasa semerbak memenuhi angkasa beralih kembangkan sutra ungu melambai meriah rasa semerbak memenuhi angkasa beralih
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français.
Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, il y en a des différents de tous les jours. Alors, n'oubliez pas de nous rester fidèles. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.